Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Grace Hamzati Massanzi.
À la une de l'actualité ce soir, les dirigeants congolais demandent à la Cour pénale internationale d'ouvrir des enquêtes sur les atrocités commises par le Rwanda dans la partie orientale du pays, d'où le lancement de la campagne dénommée CPI Justice pour la RDC. Des précisions dans quelques instants. Le choléra fait rage dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. Déjà plus de 15 décès. La société civile ainsi que l'autorité sanitaire locale lancent un SOS. Paul Matouk, le nouveau chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, est l'invité de la rédaction. Il parle des opérations de marquage des armes dans la province de Lualaba. Voilà tout pour le sommaire. À toutes et à tous, bonsoir. Le gouvernement lance la campagne nationale dénommée CPI Justice pour la RDC. C'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba qui l'annonce dans une communication faite devant les médias ce jeudi ici à Kinshasa. Il explique qu'à travers cette initiative, le gouvernement entend obtenir de la Cour pénale internationale l'ouverture des enquêtes sur les atrocités commises par les Rwandais dans la partie est du pays. Samuel Mbemba sollicite ainsi l'accompagnement de tous les Congolais pour l'aboutissement de cette campagne. Ses propos ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Nous lançons la campagne que nous dénommons CPI Justice pour la RDC. J'engage les ONG reconnues qui opèrent en RDC comme étant les ONG des droits de l'homme, parce qu'elles sont reconnues par le ministère de la Justice, d'accompagner le peuple congolais dans la quête de la justice devant la CPI. Il n'y a pas de raison que lorsque les Nations Unies ont reconnu que les droits de l'homme sont violés par Paul Kagame en RDC, que les ONG reconnues chez nous se taisent. Je demande également à la jeunesse congolaise, en particulier les étudiants, d'entrer dans cette campagne, dans le sens de demander la justice à la CPI. Que la CPI arrête de tarder. C'est maintenant ou jamais que le peuple congolais doit s'unir comme un seul homme pour demander à la CPI d'ouvrir les enquêtes.
Cette campagne intervient quelques jours après que la RDC a obtenu de la Cour de justice de l'EAC le procès contre l'agression rwandaise. Cette juridiction africaine lancera ses enquêtes le 26 septembre prochain. On enchaîne avec l'insécurité à Kinshasa. Des bandits munis d'armes létales et non létales ont tour à tour visité la nuit dernière trois maisons d'habitation situées sur l'avenue Kenge, quartier Elengesa dans la commune de Ngiringiri. Selon les bailleurs de la parcelle visitée, ces assaillants ont blessé quatre personnes et emporté plusieurs biens de valeur avant de prendre la fuite. Le récit des faits avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'attaque de ces criminels est intervenue aux environs de 2h du matin, comme affirment les bailleurs de la parcelle visitée. À leur arrivée, ces hommes armés, dont certains en tenue militaire, ont escaladé la clôture de la parcelle et cassé tour à tour des portes de trois maisons où ils ont emporté plusieurs biens de valeur ainsi que des sommes importantes en devises, comme explique l'une des victimes, Emmanuel Movia Diampova.
J'ai reçu trois coups de machette sur la tête. Après ma maison, ils ont allé attaquer la maison de mon locataire. Ils ont apporté trois postes de télévision et puis des sommes consistantes, hein, parce que nous préparons aussi la rentrée des enfants. L'enveloppe apportée peut atteindre plus de 2000 dollars. Hein. 40 minutes après leur départ, la police est arrivée. Ils ont fait ce qu'ils ont fait comme constat. Mais mon fils était même trop fâché pour leur dire que non, ça ne vaut pas la peine que vous veniez, parce qu'au moment où on avait besoin de votre intervention, vous ne vous êtes pas présenté.
Il a également regretté que ces hors-la-loi aient opéré pendant plus d'une heure sans être inquiété, alors qu'un poste de la police nationale se trouve dans les environs. Emmanuel Movia Diampova a précisé que des personnes blessées sont admises à un centre de santé le plus proche pour des soins appropriés. Il a par ailleurs recommandé aux autorités provinciales de mettre fin à l'impunité et de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Blaise Ndongala Mayanda sur la radio de la paix, direction la province du Maniema pour parler de la tenue depuis le lundi dernier du forum de paix à Kibangula, chef-lieu du secteur de Bébé Bahemba dans les territoires de Kabambare. Ce forum, organisé par les ressortissants de cette partie du Maniema, vise le rétablissement de la paix perturbée par des groupes Maïmaï. On écoute l'administrateur du territoire de Kabambare qui supervise ses assises, Walubangi Katuta Albert, joint par Florence Kizalunga.
L'objectif de ce forum n'est autre que amener la paix dans le secteur de Bébé Bahemba. Puisque vous savez, le secteur de Bébé Bahemba, c'est un secteur où presque tous les groupes Maïmaï, ils envient toujours venir rester ici. Alors, la façon dont ils sont en train de traquer la communauté avec des amendes, ils sont en train de déstabiliser la communauté. Maintenant, la population est en train de s'évider des milliers vers l'extérieur. Alors, l'attente est la stabilité. Donc, ceux qui sont là, qui seront incriminés comme les semeurs de troubles, notre attente est que nous, à la fin de ce forum, qu'on ait des points qui vont chuter, comment stabiliser l'entité et comment trouver la paix. C'est puisque la vie est devenue misérable. C'est pourquoi ils ont jugé utile de faire ces forums pour stabiliser la population. Puisque les gens avaient tendance toujours à quitter les milieux vers l'extérieur, leur activité commerciale ne s'exerçait plus comme il se doit. Pas d'avancement, il n'y avait plus ni même pas de construction. Les gens avaient même des difficultés pour construire d'autres maisons. Donc, il n'y avait plus de paix en un mot. Donc, on poursuit la paix.
Ouvrons le chapitre santé. Au Nord Kivu, la société civile alerte sur une flambée des cas de diarrhée colériforme dans au moins deux aires de santé de la zone de santé de Walikale, à environ 200 km de Goma. C'est notamment dans les aires de santé de Bilobilo et de Moubi. Le médecin-chef de cette entité sanitaire, qui confirme l'information, parle d'au moins 200 cas déjà enregistrés et 17 décès depuis l'apparition de la maladie en juin 2024. Le président de la société civile de Walikale appelle à une intervention urgente pour limiter la propagation. Fiston Misson dans ses propos recueillis par Bernard Denyangi.
Depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, nous venons d'enregistrer au moins 17 morts. Et il y a beaucoup de cas qui restent encore sous surveillance. Beaucoup de cas viennent dans le site miné d'Oumate, dans le aire de santé de Bilobilo. Jusqu'à maintenant, l'intervenant pour cette épidémie, c'est le MSF Hollande, mais cette intervention reste encore minime. Il y a autant de besoins. Les cas qui continuent à être reçus dans les centres de santé. Il n'y a pas le système isolement. Le malade passe la nuit sous les sols. Les autres malades dans les centres de santé restent à être exposés. Nous voudrions que les autorités sanitaires et les autorités politico-administratives du territoire de Walikale puissent justement continuer à alerter, à mobiliser les partenaires pour venir en aide à cette population.
Le docteur Bing Richard, médecin chef des zones de Walikale, affirme que même si l'autorité provinciale n'a pas encore déclaré officiellement l'épidémie de choléra à Walikale, cette propagation devient inquiétante. Pour lui, l'enclavement de Walikale est l'un des principaux défis aux efforts de la riposte et de l'approvisionnement des intras. Nous restons au Nord Kivu, où l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, tire la sonnette d'alarme face à l'avancée du Mpox. Dans un communiqué pastoral signé hier, il appelle la communauté de la région de Butembo Beni et Lubero à redoubler de vigilance et à respecter les mesures barrières pour enrayer cette maladie virale. À Beni, une correspondance de Martial Papi Mukeba.
Dans son message, Mgr Sikuli Paluku Melchisedek rappelle que le Mpox, une maladie infectieuse virale hautement contagieuse, continue de progresser dangereusement dans les pays. Il insiste sur l'importance de respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, non seulement lors des célébrations religieuses, mais aussi dans toutes les sphères de la vie quotidienne. À la maison, au marché, à l'école et même dans les activités sportives. Les mesures préconisées incluent l'évitement des contacts directs avec des cas suspects, l'entretien d'une hygiène rigoureuse et la prudence face aux animaux morts ou objets potentiellement contaminés. L'évêque souligne également l'importance d'orienter rapidement les malades vers les structures de santé adéquates et met en garde contre toute politisation de la maladie. Signalons toutefois que jusqu'à ce jour, aucun cas positif de Mpox n'a été notifié dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Autre aspect d'actualité, le gouvernement provincial du Haut-Katanga annonce plusieurs mesures pour sécuriser la population en rapport avec les marques de la farine contaminée à l'aflatoxine. Il s'agit notamment des Africa Milling, Roller Mill and Breakfast, Farm Feed Superdog Mill, Continental Milling, Chabko Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Ainsi, la population est appelée non seulement à être vigilante, mais aussi à s'abstenir de consommer la farine dont les sacs portent ces différentes marques. D'autres détails avec le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement du Haut-Katanga, Georges Kadinga, dans cet extrait choisi pour nous par Jean Gandou.
dans le souci de protéger la population contre toute intoxication due à la farine contaminée par l'aflatoxine, le gouvernement provincial a pris les mesures ci-après. Le renforcement des mesures de contrôle à tous les postes douaniers de la province. Le renforcement des patrouilles mixtes PNC-FRDC tout au long de la frontière avec la Zambie. L'interdiction temporaire d'importer les emballages vides de toute autre marque de farine. Le prélèvement systématique des échantillons pour analyse dans les laboratoires de l'OCC. La consignation des stocks dans les entrepôts de la DGDA jusqu'à l'obtention des résultats d'analyse de l'OCC. Le contrôle des stocks de farine dans les différents dépôts de la province du Haut-Katanga. Par ailleurs, le gouvernement provincial demande à la population de s'abstenir de consommer la farine des marques de fabrique et de commerce citées ci-haut et d'informer l'autorité la plus proche sur toute activité suspecte tendant à reconditionner la farine de maïs dans les nouveaux emballages. Un contact permanent est maintenu avec les autorités zambiennes pour qu'aucun commerçant véreux ne se serve de son territoire pour des opérations de changement d'emballage.
Pendant ce temps, les voyageurs entre Goma et Kampala en Ouganda s'interrogent sur la nature des frais de 20 000 shillings, soit un équivalent de 7 dollars américains, déboursés à l'immigration ougandaise au poste de Chanika avant l'apposition du visa sur leur passeport. Ils disent ne rien comprendre quant à ces frais alors que la RDC et l'Ouganda avaient convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi d'un visa en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Christian Bila, un voyageur, partage ici son inquiétude. Il est au micro de Denise Lukeso.
Je viens pour faire un petit témoignage, que j'ai vécu en Mermont. Je fais un petit déplacement vers l'Ouganda, je suis passé par Chanika. Alors arrivé là-bas, j'ai fait un petit constat. Le visa qu'on savait gratuit, puisque aujourd'hui la RDC est entrée dans la communauté de l'Afrique de l'Est, ce qui rend le visa gratuit de la RDC dans plusieurs pays ici du Grand Lac, notamment l'Ouganda. Mais j'ai constaté que chaque personne qui passait là-bas, Congolais payait 20 000 shillings, que nous savons pas la nature de cet argent. Est-ce un visa ou se perçoit pour autre chose? Je voulais quand même qu'on puisse éclairer l'opinion par rapport à ça. Ça serait une très bonne chose.
Éducation. À 72 heures de la prochaine rentrée scolaire, les enseignants du territoire des Kungu dans les sud Ubangi haussent le ton. Après leur assemblée générale ce mardi, ils exigent notamment le paiement des arriérés des 2 mois de salaire pour préparer la rentrée de leurs enfants, mais aussi la mécanisation des nouvelles unités et l'amélioration effective de leurs conditions sociales. Suivez le coordonnateur du comité interfédéral des syndicats des enseignants des Kungu, Emmanuel Bamolokola, dans cet extrait proposé par Paul-Richard Malengela.
Tous les enseignants du territoire de Kungu exigent ce qui suit pour que la rentrée scolaire ce 2 septembre soit effective et apaisée. 1. La prise en charge par le trésor public de 15 476 enseignants NEI des bureaux gestionnaires et écoles à travers les 9 sous-divisions provinciales du territoire, car il est inconcevable pour un gouvernement d'utiliser cette catégorie d'enseignants chaque année sans les payer. 2. Améliorer les conditions de travail des enseignants par des salaires décents et digne, 500 dollars américains ou rien. 3. Délocaliser sous mot de dirigeance la paye des enseignants de Kungu, de l'IFOD, de Bar Caritas Boudjala Vert, la Copec Banque Lissungi ou une autre banque honnête dès la paye de septembre pour éviter des remous sociaux. 4. Exiger à la Caritas Boudjala de venir payer ipso facto nos 2 mois de salaire de vacances juillet et août pour permettre aux enseignants parents d'acheter des fournitures scolaires et envoyer leurs enfants à l'école, car nous sommes fatigués des revendications.
Notez qu'à la suite de l'épidémie des Mpox, les enseignants de Kungu demandent enfin le décalage de la rentrée d'un mois. C'est en vue de permettre aux écoles d'améliorer les conditions d'hygiène et d'éviter la propagation à grande échelle de la maladie.
Actualité internationale.
Au Niger, le président renversé Mohamed Bazoum a été entendu mercredi matin dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence par un groupe de 3 gendarmes, un commandant, un capitaine et un adjudant. Pour rappel, la Cour d'État avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison.
L'invité.
C'est Jean-Paul Matouk. C'est un nouveau chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. Il intervient sur nos antennes pour parler des opérations de marquage des armes qui ont débuté dans la province du Lualaba depuis la semaine dernière. Il s'entretient avec Askin Zigbia Tayoro.
Bonjour, monsieur Jean-Paul Matouk.
Bonjour.
Voilà, mercredi dernier, votre installation officielle comme chef d'antenne provinciale de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a coïncidé avec le lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes dans la province de Lualaba. Quelle est vraiment l'importance pour la République de faire le marquage des armes?
L'importance des marquages dans la République démocratique du Congo, comme dans d'autres coins du monde d'ailleurs, s'inscrit dans le processus qui permet le bon suivi et contrôle des armes tout au long de leur cycle de vie et facilite leur traçage en cas de détournement. Comme vous le savez, les armes sont toujours exposées au détournement. Et donc, les marquages et l'enregistrement des armes permet de faciliter les acteurs, par exemple, de la chaîne pénale, de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'appui de la CNC en matière de profilage et de traçage des armes pour savoir de qui ou de quelle unité provient telle ou telle autre arme trouvée sur un lieu des crimes, par exemple.
Alors, quels sont les types d'armes qui sont concernés par le marquage?
Les types d'armes qui relèvent des attributions de la Commission nationale sont principalement les armes légères et de petit calibre. Et là, il faut souligner qu'il existe la catégorie d'armes d'État, donc les armes organiques qui sont attribuées aux unités des forces de défense et de sécurité, comme les FARDC et la PNC. Et une autre catégorie, ce sont des armes individuelles appartenant à des civils légalement autorisés. Mais là encore, il faut souligner qu'il existe à la Commission nationale un service permanent de marquage qui a été établi pour marquer les stocks non organiques, c'est-à-dire les armes non encore attribuées préalablement à leur dotation aux unités.
Monsieur Matouk, en faisant un état des lieux sur la circulation des armes dans la province de Lualaba, qu'avez-vous vraiment constaté concrètement?
Au stade actuel, il est prématuré de donner un quelconque état des lieux de façon concrète de la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. Mais au regard des événements qui se sont succédés dans cette partie du pays, il va de soi que la circulation illicite des armes légères et des petits calibres soit une réalité. Nous savons aussi qu'il est là-bas et limitrophe des 4 provinces de la RDC, 3 provinces de l'Angola et une province de la Zambie. Et donc cette position géographique confère à la province du Lualaba un caractère complexe sur le plan sécuritaire, si je peux me permettre l'expression.
Il y a beaucoup d'activités de différents services qui se font, voulais-je dire, autour de votre commission. Que ferez-vous en priorité pour réussir la mission qui vous a été confiée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui vous a personnellement installé dans votre fonction?
Parmi les actions prioritaires, nous avons déjà les opérations en cours, les opérations de marquage et enregistrement d'armes, de forces de défense et de sécurité, mais aussi les armes détenues légalement par les civils. Nous aurons aussi des études de terrain pour permettre de cartographier les armes illégalement détenues par les civils afin d'arriver à la sensibilisation en vue d'un désarmement civil volontaire. Nous aurons aussi des activités, n'est-ce pas, des renforcements des capacités en matière de profilage et traçage des armes légères et des petits calibres pour servir des meilleurs appuis aux acteurs de la chaîne pénale comme l'auditorat militaire et les autres services judiciaires.
Monsieur Jean-Paul Matouk, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Salutations aux auditeurs de la radio Capi.
Notre invité était interrogé par Askin Zigbia Tayoro. Ce journal touche à sa fin. Merci à Pele Kipela Mondo pour la supervision, Richard Junior Kamunga pour la coordination et Alain Goy pour la mise en onde. Ce journal est à retrouver sur radiocapi.net. Merci aussi à vous de l'avoir écouté.